Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Il est 9h08. Merci d'être à l'écoute de Culture Média. Merci de votre soutien. Nous sommes en direct avec une version réduite de Culture Média, émission avec une architecture inhabituelle, avec comme hier des entretiens déjà réalisés en faisant en sorte de rester autant que possible dans l'actualité. Il faut plus que jamais soutenir la culture sous toutes ses formes. Mais avant cela, c'est tout frais. Les audiences télé qui viennent de tomber et l'essentiel des médias de ce mercredi 23 juin avec Louise Bernard. Bonjour Louise.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Avant de nous donner l'essentiel de l'actualité média, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français à la télévision hier soir.
Ils ont regardé le téléfilm de France 3 jusqu'à ce que la mort nous unisse. Plus de 4 millions de téléspectateurs, 4 170 000 précisément pour un téléfilm qui a été diffusé pour la troisième fois, 19,5% de part d'audience. C'est mieux que le foot sur M6, République Tchèque-Angleterre, le match de l'Euro, 3 700 000 téléspectateurs, 17,4% de part d'audience. Et puis troisième place pour TF1 avec le film Sabine en Prada, là aussi c'était une rediffusion, 2 740 000 téléspectateurs, 13,6% de part d'audience.
Culture Média.
L'essentiel des médias maintenant avec à la une le sixième jour de grève ici à Europe 1.
Oui, une grève qui fait la une du journal Libération ce matin. Elle continue aujourd'hui jusqu'à 13h pour l'instant. Décision prise lors de l'Assemblée Générale par 90 salariés sur les 95 présents. Une motion de défiance a également été votée à l'encontre du directeur délégué à l'information, Donna Vidal-Revel. Hier, 70% de la rédaction était à nouveau gréviste avec une antenne toujours perturbée. Les syndicats doivent rencontrer Constance Binquet, présidente de Lagardère News, dont fait partie Europe 1 tout à l'heure à 11h. Les réclamations restent les mêmes. L'annulation de la procédure disciplinaire visant un des journalistes de la rédaction, Victor Dolande, ainsi que la mise en place d'une clause de conscience suite au rapprochement d'Europe 1 avec la chaîne d'opinion CNews. Un dispositif qui permettrait aux salariés en désaccord avec cette nouvelle ligne éditoriale de quitter l'entreprise en bénéficiant d'indemnités.
Une grève également dans le groupe Next Radio TV depuis hier après-midi.
Oui, Next Radio TV, c'est-à-dire BFM et RMC, les antennes sont perturbées depuis hier. Les grévistes demandent une revalorisation des salaires de 2%, soit deux fois plus que celle prévue par la direction. Les syndicats font valoir les bons résultats du groupe, plus de 37 millions d'euros de bénéfices l'an dernier et une rédaction amputée de 245 personnes après un plan de départ l'an dernier également, en 2020. Plan de départ qui aurait dû permettre de meilleures conditions sociales pour les employés restants. Réponse de la direction dans un courrier adressé aux salariés. À notre connaissance, nous sommes le seul groupe média majeur à appliquer cette année une augmentation collective.
Un petit nouveau dans les kiosques ce matin, c'est le magazine Epsilon.
Oui, on vous avait annoncé sa création ici. Epsilon, c'est ce nouveau magazine d'actualité scientifique créé par les anciennes équipes de Science et Vie, des journalistes qui avaient dû quitter la rédaction après son rachat par le groupe ReWorld Media et les désaccords profonds sur la ligne éditoriale. À la une d'Epsilon, pour son premier numéro, un dossier d'actualité, comment la Chine va manipuler la météo. 89 scientifiques ont été interrogés pour construire ce premier numéro. 100 pages, 4,90 € chaque mois.
Epsilon avec deux O, mais ça se prononce quand même Epsilon. Et puis une nouveauté dans les kiosques également pour des quotidiens régionaux.
Oui, à partir d'aujourd'hui, les journaux Le Républicain Lorrain et Vosges Matin sont entièrement en couleur, de la première à la dernière page. Ce sera aussi le cas de l'Est Républicain à partir du 1er juillet. Une volonté de se moderniser, de permettre une lecture plus facile et de mettre en valeur les photos et infographies.
Un petit changement dans l'émission politique de France 2.
Oui, Francis Letellier arrive, un nouveau venu dans Vous avez la parole, visage de France 3. Il anime Dimanche aux politiques chaque week-end. Il arrive en plus du duo Léa Salamé-Thomas Soto. On ne sait pas encore précisément quel sera son rôle, simplement qu'il sera au contact des Français. D'après la direction, l'émission veut miser encore davantage sur l'interactivité. Francis Letellier continuera son interview dominicale sur France 3, mais pas son émission Nous les Européens, toujours sur France 3. C'est Éléonore Gay qui en prend les commandes, une journaliste de France Télévisions, actuelle rédactrice en chef adjointe de la rédaction.
Et puis pour finir, cinéma, le réalisateur Steven Spielberg change d'avis au sujet de Netflix.
Mais il avait toujours critiqué le streaming, il craignait qu'il ne porte préjudice au cinéma. Et puis finalement, il vient de signer un contrat pour produire plusieurs films pour Netflix. Produire, pas forcément réaliser.
À suivre. Merci beaucoup Louise Bernard. À très vite. Avant d'entendre le réalisateur Édouard Bergeon et revenir avec lui sur le succès du lancement de sa chaîne télé Cultivons-nous.tv, il est question de culture au sens d'agriculture. D'abord musique, c'est Clara Luciani, le reste.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie.
beauté perdue sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse les souvenirs émus de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. C'est mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Est-ce mon pauvre cœur qui a tout inventé? Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché, je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse.
Clara Luciani, c'était le reste. On va réentendre dans un instant le réalisateur Édouard Bergeon qui était venu à ce micro parler du succès du lancement de sa chaîne de télévision Cultivons-nous.tv. Vous le connaissez, Édouard Bergeon, c'est lui qui a réalisé ce film sur l'agriculture et sur les drames d'un agriculteur avec Guillaume Canet. On marque une courte pause et on se retrouve.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
C'est un sujet qui intéresse de plus en plus les Français, cela se voit dans les médias. L'agriculture fait de l'audience, bonne nouvelle. Fin février, 5 millions de téléspectateurs ont regardé le documentaire « Nous paysans ». C'était sur France 2 en prime time, une surprise. Et la semaine dernière, un chiffre lui aussi étonnant a été dévoilé. 60 000 abonnés pour une plateforme payante consacrée aux agriculteurs et à leur travail. Cultivons-nous.tv, 60 000 abonnés déjà, un an après le lancement. Bonjour Édouard Bergeon.
Bonjour.
C'est vous qui avez lancé cette plateforme parrainée par Guillaume Canet, que vous connaissez bien, car c'est Guillaume Canet qui tient le rôle principal dans votre film Au nom de la terre, sorti il y a 2 ans. Combien d'entrées avait fait le film ?
Plus de 2 millions d'entrées, ouais.
Là c'est aussi,
dingue.
Une performance. Vous venez nous voir, donc, vous parler de ce succès. Celui de Cultivons-nous.tv, 60 000 abonnés, c'est pas fini. La plateforme, évidemment, continue de se développer, on en parlera un petit peu plus tard. 60 000 abonnés en un an, pour situer, Mediapart a mis 4 ans pour atteindre ce chiffre. Mediapart, qui est considéré comme une référence dans le monde, ce qu'on appelle les pure players, les gens qui ne sont que sur Internet. Tout d'abord, le prix de l'abonnement.
4,99€, sans publicité, sans engagement. On peut s'en aller quand on veut et on reverse à chaque abonnement 1€ à Solidarité Paysan. On fait du bien quand on s'abonne à Cultivons-nous.tv.
4,99€, déjà 60 000. Qui sont vos abonnés ? D'où viennent-ils ?
Ils viennent de partout, ils ont tous les âges. C'est pas destiné qu'aux agriculteurs, parce que Cultivons-nous, on parle d'agriculture, mais on parle d'alimentation, d'environnement, de ruralité. Je retisse les liens entre tout ça. Je pense que pendant trop longtemps, on a parlé que d'agriculture ou que d'environnement, à opposer les uns contre les autres. Mais s'il y a des écologistes, les premiers sont les agriculteurs. Ils travaillent entre le ciel et la terre, travaillent avec le vivant. Donc,
c'est un sujet, ça va vraiment être un sujet, parce que d'ici, il y a des écologistes et des agriculteurs, et on voit souvent la lutte entre les écolos et les agriculteurs.
Ouais, mais justement, il faut s'accompagner, il faut co-construire, il faut coexister, sinon, si on est l'un contre l'autre, c'est compliqué. Donc, tout public, tous âges, on est sortis pendant le confinement l'an dernier, vous vous en souvenez, on était ensemble,
ouais.
On a tous refait les courses, fait le marché, passé du temps ensemble, cuisiné, et la valeur santé avec on est ce qu'on mange, bien manger, bien consommé, local, français, ben voilà, c'est Cultivons-nous.
Vous dites que l'agriculture est devenue tendance, ça veut dire que c'est un phénomène de mode ?
J'ai envie de dire que ça devient pop même.
Ouais.
La photo,
pop, ouais.
Bah, la photo cool en fait, c'est celle qu'on fait dans les champs, dans un chemin. Regardez, je suis en week-end à la campagne, on dit ouais. À la campagne. C'est ça aujourd'hui sur Instagram qu'on aime voir. Et en tout cas, je pense que en tout cas, ça fait du bien de reconsidérer celles et ceux qui sont nous nourrissent. Faut pas oublier que ça reste difficile, c'est du travail, et que créer de la valeur quand on est agriculteur, ça reste difficile, et beaucoup ne vivent pas encore comme il faut de leur travail.
Et je vais dire que vous savez de quoi vous parlez, vous n'êtes pas un bobo ou une pièce rapportée, vous êtes fils et petit-fils d'agriculteurs, et vous avez également traité tous ces sujets en tant que journaliste, notamment pour France Télévisions. Alors qu'est-ce qu'on peut voir sur cultivons-nous.tv ?
Eh bien, le documentaire dont vous avez parlé, Nous Paysans, qui a fait 5 millions d'entrées, on va le récupérer sur notre plateforme et c'est important pour nous. C'est comme quand une chaîne d'histoire, elle a Apocalypse, ben nous on a Nous Paysans.
Ouais, c'est votre produit d'appel.
Ouais, et puis on fait beaucoup de créations originales avec des journalistes ici et là en France, notamment Nicolas Fay qui est en Haute-Vienne et qui raconte tout son environnement et qui vient de faire le portrait de Maurice, 97 ans, toujours agriculteur et un des pionniers de l'agriculture biologique et qui a un recul extraordinaire et qui est toujours en activité à 91 ans. Et ça marche très bien par exemple. On va voir des grands chefs, on raconte vraiment tout ce qu'il y a du champ à l'assiette et qui touche la ruralité. Donc c'est très très varié.
Mais vous dites que ça s'adresse également aux professionnels. Il y a des tutos ou ça va pas jusque là?
Non, mais par contre, je fais de l'agrégation de chaînes d'agri-youtubeurs. C'est-à-dire que les agriculteurs ont pris leur téléphone il y a quelques années pour se raconter eux-mêmes, parce que je pense qu'ils avaient besoin de s'exprimer, qu'ils n'avaient pas de canal qui leur était dédié. Donc j'ai certains qui sont très fidèles, comme un vigneron en Champagne, David Fèvre, Lucie qui fait des œufs en Vendée et qui se filme. Et on a besoin de communiquer. Ouest France a parlé de Lucie la semaine dernière, parce qu'elle est arrivée à 5000 abonnés, elle. Ils ont mis une photo d'elle avec ses poules dans un poulailler, alors qu'elle a des poules qui vont en plein air, mais avec le confinement, elles sont fermées. Elle s'est pris des tombereaux d'insultes parce qu'on ne peut pas avoir 15 000 poules. Il faudrait qu'elles soient toutes au champ. Mais dans ces cas-là, on fait comment? Est-ce qu'on est prêt à payer aussi le prix des bons œufs? Enfin, c'est terrible, l'image, vous savez, hein, le pouvoir de l'image. Ouais. Ces poules, elles sortent en plein air, mais quand elles veulent pondre, elles rentrent à l'intérieur pour pondre dans leur nid. On va pas dire à la poule, pond dehors.
Ouais.
Ouais, mais en fait, c'est tout ça aussi, cultivons-nous. C'est faire de la pédagogie.
Ouais,
mais sans juger, sans incantation et sans dire il a raison, elle a tort, le bio c'est bon ou c'est mieux. Oui, c'est bien. On a tous envie de vertu pour nous, notre santé, notre planète. Mais moi, je suis pas là pour dire il y a qu'à faucon. Je présente une boîte à outils. Cultivons-nous, c'est une boîte à outils et le consommateur, le citoyen est assez grand pour faire son choix.
Alors, parmi ce que vous proposez, il y a de grands entretiens que vous menez. Vous avez reçu entre autres le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, le désormais ex-PDG Danone, Emmanuel Faber, et puis des agriculteurs, des agricultrices, au parcours parfois étonnant.
Demain, une chef cuisinière, Nadia Samut, qui est la première chef étoilée sans gluten, sans lactose. Les femmes sont très actives dans ce milieu-là.
Justement, on avait choisi l'exemple d'une autre femme. Elle s'appelle Anne-Cécile Suzanne. Elle est éleveuse, directrice d'une coopérative dans l'Orne. Jeune femme diplômée de Sciences Po et d'Harvard.
C'est incroyable.
Je suis partie aux États-Unis dans le cadre de mon parcours en école de commerce. Donc j'ai étudié l'innovation et l'entrepreneuriat. Et puis finalement, mon père était tombé très malade. Il s'est retrouvé à l'hôpital à 100%. Et il n'y avait plus personne sur la ferme parce qu'il n'avait pas de salarié. Je suis fille unique. Et donc je me suis dit, Cécile, il faut que tu rentres à la ferme, il faut que tu t'occupes des animaux. Et donc je suis rentrée. Donc j'ai travaillé sur la ferme et mon père me donnait des instructions par téléphone. Il m'a appris à conduire le tracteur en coup de vent parce qu'il m'avait finalement jamais appris. Il n'avait jamais voulu que je conduise ce type d'engin. Donc là, par la force des choses, il m'a un petit peu enseigné tout ça. Et puis je m'y suis mise. Alors ça n'a pas été évident, hein. Je me suis retrouvée avec une tendinite au poignet gauche, puis au poignet droit. Ça a été une expérience qui m'a sans doute beaucoup forgée. Mais au final, je me suis prise au jeu et j'ai continué.
Ce dont il est question là, en l'occurrence, c'est de transmission, pas toujours évidente. Le métier d'agriculteur peut faire peur. Est-ce que son image est en train de changer?
Bien sûr, et puis on le voit, vous passez l'extrait d'une femme qui a une trentaine d'années. Derrière, sur quatre agriculteurs, il y a un quart, ce sont des femmes. Et bien sûr que c'est en train de changer, mais il y a encore du boulot. Et c'est par Cultivons-nous, justement, que moi, j'essaie de changer aussi l'image de celles et ceux qui nous nourrissent.
Et par aussi votre existence même. Vous-même, vous êtes fils et petit-fils d'agriculteurs, je l'ai dit, et vous voulez vous y mettre aujourd'hui, vous avez passé les diplômes nécessaires.
Ouais, j'ai eu mon BPREA, donc mon brevet de responsable d'exploitation agricole, donc c'est un bac pro agricole pour pouvoir reprendre les terres de maman qui vient de prendre sa retraite dans la Vienne. Et puis j'ai d'autres projets par ailleurs avec mon associé, on a des restaurants et on vient de racheter une guinguette sur les bords de Loire dans la Nièvre où on a un maraîchage, donc on fait pousser nos légumes, on transforme nos légumes, les viandes qu'on achète localement, et voilà, on essaie de faire ce qu'on dit, en fait de raccourcir les circuits.
Et à la France Agricole, sur le site franceagricole.fr, vous avez révélé que votre rêve serait également de produire votre propre vin.
On aime tous boire un bon petit vin.
Oui, mais on n'a pas tous peut-être envie de le faire. Vous allez vraiment le faire? Vous allez acheter des vignes? Vous allez les cultiver?
Quand j'aurai un peu plus de 40 ans, ouais, je ferai ça.
Vous avez quel âge?
38.
38, donc dans 2 ans. À terme, vous avez vraiment l'intention de devenir agriculteur ou ça marche très très bien pour vous, vos activités, ou alors vous avez envie de devenir agriculteur cinéaste?
Je suis cinéaste, j'ai des racines agricoles, on fait à manger, on en parle. je parle de ce que je suis, d'où je parle de la terre, et j'ai la chance d'avoir acquis une liberté incroyable, ce que mon père n'avait pas quand il était dans sa ferme, où il travaillait comme un forçat, et où il pouvait crier fort, mais personne ne l'entendait.
J'ai mal posé ma question. Comment vous imaginez en 5 ans? Vous imaginez en train de vous réveiller et partir en salle de montage, ou alors partir sur vos champs pour aller sarcler?
Eh ben, toujours avec Guillaume Canet, normalement, l'année prochaine, on tourne sûrement un prochain film sur le monde agricole en adaptant l'histoire de Paul François, qui est cet agriculteur qui a vaincu Monsanto suite à une intoxication d'un désherbant qui est aujourd'hui interdit. Donc je continue le cinéma avec Christophe Rossignon, qui est un producteur incroyable et qui m'a fait confiance et qui continue dans ce sillon-là. Et en même temps, un autre projet avec Emmanuel Courcol, mon co-auteur, qu'on écrit sur l'huile de palme entre Bornéo et la France, sur l'incidence de cette énergie verte qui n'est pas si verte que ça sur les populations locales et sur la terre. Et puis culture. Cultivons-nous devrait grandir, et puis voilà, Cultivons-nous devient déjà un livre avec les arènes à la fin de l'année. On veut en faire un gros livre de 350 pages qui, je l'espère, pourra être sous le sapin de Noël de beaucoup de monde, où on brasse le champ, l'assiette, un cahier pratique. Tous les sujets de Cultivons-nous vont se trouver sur un espèce de gros MOOC. Mmh. Et on en parlera aussi dans un festival qu'on est en train de décliner à Tours, une sorte des assises du mieux manger. Ouais. Et à la rentrée de septembre-octobre, on verra avec le Covid. Hein.
Mais je sais pas comment vous allez faire. Parce que dans nos métiers, on bosse 10 heures par jour. Et quand on a une ferme, on bosse 10 heures par jour. On va faire des journées de 22 heures pour vous.
En fait, vous le savez, il faut être entouré. On ne fait rien quand on est tout seul.
On est bien d'accord. Vous restez avec nous, Edouard Bergeon. On n'a pas encore parlé de beaucoup de choses, et notamment sur le fait qu'il y a aussi des pépites historiques qu'on peut trouver sur votre chaîne cultivons-nous.tv. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Edouard Bergeon, réalisateur, mais pas seulement, qui lance cultivons-nous.tv. C'est une chaîne consacrée à l'agriculture, mais pas seulement, aussi à la nature. 4,99€ par mois. Il a lancé l'an passé déjà 60 000 abonnés, ce qui est vraiment une performance. Ce que je disais en préambule, mais juste pour situer, Mediapart, qui est considéré comme une référence, a mis 4 ans pour atteindre ce chiffre. Alors sur cultivons-nous.tv, vous proposez également des documentaires qui ont été tournés il y a quelques décennies, des trésors comme vous dites, parmi eux une formidable série intitulée La Voix, réalisée dans les années 60-70 par Armand Chartier. C'est une sorte de striptease avant l'heure. On va suivre, là en l'occurrence, Lily, une comédienne qui est devenue éleveuse dans la Nièvre. Nous sommes en 75.
J'ai eu des moments de découragement où le soir, toute seule dans mon lit, je pleurais, mais je me raisonnais, puis je dis non, juste après tout, il faut que tu t'en sortes, tu sais que tu n'as que sur toi à compter. Je me réveillais le matin, plus dynamique, je m'étais couchée et les choses allaient beaucoup mieux.
Ah, maintenant, je me sens de la Nièvre. Ça, c'est mon pays, maintenant, d'origine. J'aime tellement cette région, je suis tellement attachée à ces bêtes que je me sens maintenant absolument d'ici. Je ne voudrais pas quitter ce pays pour rien au monde.
Extrait très intéressant parce qu'ambivalent, il y a à la fois l'espoir, la joie, les difficultés, le doute que peuvent éprouver les agriculteurs. Et on voit que ce n'est pas d'aujourd'hui, puisque là, on était en 75 avec cette femme. Vous voulez donner quelle tonalité à cette plateforme, optimiste, réaliste, les deux à la fois?
Les deux à la fois. Mais c'était important pour moi, dès que j'ai construit, monté Cultivons-nous, qui est une playlist, donc une page dédiée à l'histoire. Et j'ai eu la chance qu'on me fasse un cadeau. Pascale Delol, qui est la fille d'Armand Chartier, qui était ingénieur agronome et patron de la Cinémathèque du ministère de l'Agriculture pendant plus d'une trentaine d'années, qui a réalisé lui-même plus d'une soixantaine de ses films que vous venez d'entendre. La Voix, c'est une série de 13 films féministes sur les femmes en milieu rural, de tous horizons, très modernes, très cinématographiques, avec la musique de François de Roubaix. Ouais. Et elle m'appelle, elle avait été touchée, Pascale, qui est monteuse, par mon film Au nom de la Terre, et c'est vrai que c'est le marqueur Au nom de la Terre qui est rentré dans les campagnes, qui a fait 2 millions d'entrées et qui a bougé les lignes à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau syndical, sur l'identité, sur la fierté même des agriculteurs. En fait, on a parlé d'eux, même par un sujet tabou qui est violent, qui est le suicide. On a parlé au moins d'eux et d'une manière, je crois, réaliste, parce que j'ai grandi dans une exploitation agricole. Et Pascale Delol m'appelle et me dit j'ai les 60 films de mon père, je suis l'ayant droit unique et j'aimerais vous les confier. Et tous les revenus qui sont générés par ces films-là sont reversés à Solidarité Paysan, justement. On ne fait pas d'argent sur ces trésors-là, mais qui sont une part de nous. Il y a des films sur le remembrement, sur la mécanisation de la betterave, sur une école de jeunes filles. Et j'adore, c'est mes petits trésors, et j'adore aller voir ces petites pépites, et c'est très moderne en fait.
Vous disiez, l'agriculture est en train de devenir tendance, et une autre tendance qui croît de plus en plus sont les véganes. Or, sur cultivons-nous.tv, il n'y a pas de documentaire sur les véganes. Pour quelle raison ?
C'est la chaîne du vivant, cultivons-nous. Donc, moi je ne conçois pas qu'on puisse manger de la viande de labo. Pour moi, un steak, c'est pas un steak végétal. Après, je respecte le fait que... Je pense qu'il faut qu'on mange moins de viande, qu'on en mange mieux, qu'on sache d'où elle vienne, qu'au maximum elle soit française. Après, c'est pas quelque chose... Qu'il y ait des lanceurs d'alerte, qu'il y ait L214, qu'il y ait tout ça, c'est important. Après, quand on est dans le trop et dans des méthodes d'ayatollah, je trouve que ça me dérange. Donc, ça reste la chaîne du vivant. Et ça le restera, je crois.
Justement, comment vous choisissez vos sujets ?
Avec mon ventre, quand ça se passe bien.
Comment ça ?
Ben, je sais pas. Quoi.
C'est votre deuxième cerveau ?
Ben, pas vous.
Dire comme tout le... Si, mais j'avais jamais entendu quelqu'un qui dit « choisis mes sujets avec mon ventre ».
Ben, parlez-en à Laurent Mariotte, au Bon Vivant, il va vous dire comment ça se passe. Et ouais, ça me parle pas. Et je raconte toutes les agricultures, toutes les formes d'agriculture, que ça soit dans la bosse industrielle jusqu'à l'agriculture urbaine, plus bobo, bio, de conservation des sols, sans pesticides, avec pesticides. Le but, c'est qu'il y ait de la vertu, on a tous envie qu'on aille, d'aller mieux, mais ça ne me dérange pas de raconter des réseaux de grande distribution ou la fabrique agro-industrielle. Il ne faut pas oublier que 70% des gens achètent leurs aliments dans les supermarchés.
Ouais.
Donc, il faut qu'ils bougent. Mais moi, je pense que pour détourner un avion, il faut monter dans le cockpit. Donc, je pense que c'est intéressant de bouger avec eux. Et si à un moment donné, peut les faire bouger d'un, deux, trois degrés pour qu'ils changent leur méthode et rémunèrent les agriculteurs, bah, peut-être que le Titanic évitera de prendre l'iceberg si on le fait un petit peu bouger. Quoi.
Justement, puisque vous parlez de grande distribution, on peut dire que le monde agricole est très disparate et divisé. Il y a des petits exploitants indépendants jusqu'aux grosses coopératives industrielles. On oppose également souvent, et peut-être un peu facilement, les gentils bio aux méchants céréaliers qui prennent les subventions de la PAC. Leur regard, forcément, n'est pas le même sur les problèmes et sur les solutions à apporter. Est-ce que ça aussi, c'est en train de changer ?
Ouais, je crois. Et puis, le bio aujourd'hui, c'est devenu une marque. C'est pas si simple de faire du bio. Nous, on fait de l'agriculture de conservation des sols chez nous. Il y a des années, il pleut pas. On voudrait semer un couvert végétal pour remplacer la chimie. On peut pas, parce qu'il pleut pas. Faire changer les choses, c'est du temps long. On peut arrêter le glyphosate chez nous, mais alors il faut arrêter, j'imagine, d'importer tout ce qui est mûri au glyphosate et qui vient d'Amérique du Sud ou d'Ukraine et qui est beaucoup moins cher. C'est jamais simple, en fait. Et puis, la chimie, je ne la défends pas, mais ça permet d'éviter de la fusariose, des champignons, des choses comme ça, et de garantir peut-être une sorte de sécurité alimentaire aussi. C'est comme si à l'hôpital, vous enleviez tout. Ben non, en fait. Donc, ce n'est pas si simple. Chez nous, on a un maraîchage, justement. On fait du chou. Depuis 3 ans, pendant 3 ans, il y a eu l'altise, hein, qui est un insecte qui a tout ravagé. Il n'y a pas de chou. Ben, on a un jardin qui est bio, un maraîchage bio, et on ne met pas de produits chimiques. Sauf qu'à un moment donné, on s'est dit, on aimerait bien avoir du chou tout l'hiver, quand même, c'est les légumes de l'hiver. Ben, on a juste utilisé de la chimie contre l'altise sur les choux, sur un petit bout d'un carré. Et on a eu des choux. Voilà, vous voyez le truc ? C'est pas si simple, si simple. Donc, moi, j'ai envie de surtout défendre celles et ceux qui nous nourrissent. C'est déjà assez compliqué comme ça. Ma maman, elle vient de prendre sa retraite, je vous l'ai dit, et elle a 600 balles de retraite. Et à un moment donné, je trouve ça pour le coup, c'est pas cool. Donc, soyons un peu indulgents avec celles et ceux qui nous nourrissent.
Mais quand même, vous pourrez dire avec moi que la grande distribution n'est pas vraiment la meilleure amie des agriculteurs.
Ah non.
Et pourtant, vous avez passé un partenariat avec Intermarché l'an dernier. De quelle forme et pour quelle raison ?
Ben justement, ils avaient envie de... Ils ont créé une marque qui s'appelle Merci sur le lait, le miel, le jus de pomme pour rémunérer au juste prix les producteurs. Comme sur l'exemple de C'est qui le patron avec Nicolas, ouais, Chaban, ou en direct des éleveurs avec Fabrice Aigron. Et à un moment donné, c'est en ça que je vous dis qu'ils n'ont pas le choix, parce que les consommateurs choisissent ce qu'ils ont envie d'acheter et ce qu'ils n'ont plus envie d'acheter. Et à un moment donné, la grande distribution... Bah, il voit que ça marche pas. Auchan est en train de perdre des parts. À un moment donné, un des nouveaux patrons d'Auchan m'appelle pour me dire « Ah, c'est intéressant, cultivons-nous, comment on pourrait parler peut-être comment on pourrait parler aux agriculteurs ?»« Bah, il faudrait peut-être déjà ramener vos équipes dans les fermes. »« Ah ouais, peut-être, bah ok.
Ouais.
Avec cultivons-nous, on fait un truc. »« Bah ouais, peut-être, mais on va aller le filmer. »« Ouais, bah si ça fight et qu'ils sont pas d'accord, on va falloir le montrer. »« Ok, on va le montrer. »
Alors qu'est-ce qui va se passer avec Auchan ?
Bah, je sais pas, on discute. Mais ouais, à un moment donné, je veux pas faire de la pub d'Auchan. Je veux juste montrer. Faire du fact-checking, en fait. C'est ce que fait Nicolas Chaban avec C'est qui le patron.
Ouais.
C'est qu'à un moment donné, nous, consommateurs, on a envie de savoir. La grande distribution reste un des fossoyeurs de l'agriculture, clairement. J'ai pas peur de le dire. Mais moi, je suis indépendant sur ma chaîne. J'ai pas de pub, en fait. Donc, à un moment donné, si je fais un partenariat avec Intermarché qui nous prend des abonnés, qui veut éduquer ses consommateurs. Et qu'en même temps, j'ai un documentaire sur la grande distribution qui tape et défonce, qui raconte les marges arrière et tout. Mais j'ai aucun problème à le mettre. En fait, je suis indépendant et j'ai pas besoin d'eux pour vivre, en fait.
J'ai bien compris. On va retrouver également cultivons-nous.tv sur la plateforme Brutix qui sera disponible sur la box Orange.
On y est déjà, ouais.
Vous êtes déjà sur Amazon Prime Video. Sera quand ? C'est maintenant ou c'est en septembre ?
Sûrement en septembre, ouais.
Quoi d'autre ? Vous le savez déjà ?
Orange, Amazon, Brutix, ouais, avec Renaud Levanqui et Guillaume Lacroix qui m'ont fait... on a un partenariat ensemble, on parle d'eux, ils parlent de nous. Avec mon associé Antoine Robin, avec qui j'ai monté Cultivons-nous, parce qu'on est quand même deux, j'ai pas monté ça tout seul. C'est un journaliste qui est passé dans les réseaux, dans la pub et tout. Il sait comment aujourd'hui le digital fonctionne. Enfin, il sait. Il faut rester humble dans le digital parce qu'aujourd'hui, on a 60 000 abonnés. Demain, on sait pas. C'est très, très volatile.
Personne ne sait. Même les géants parfois se plantent.
Voilà. En tout cas, on a des convictions, et on est passionnés et on essaie de faire grandir Cultivons-nous en l'arrosant régulièrement.
On me glisse, j'ai mis l'idée d'arroser. On me glisse que pour Orange, ce sera en juin les prochains projets. Vous l'avez dit, il y aura un livre et puis quoi d'autre ?
Un MOOC avec les arènes.
Et il n'y a pas des discussions en cours ou bientôt prochainement avec le ministère de l'Agriculture ?
Il y avait.
Ah bon ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
J'aurais bien voulu que. Et le ministère aussi aurait voulu que Cultivons-nous serve de plateforme pédagogique aux 220 000 élèves de l'enseignement agricole. Il faut savoir que ce n'est pas l'éducation nationale. Ouais.
Pourquoi ça ne s'est pas fait ?
Il n'y a pas d'argent.
Il n'y avait pas d'argent. Bah voilà.
Et pourtant, on ne demandait pas d'argent, il faut juste des frais techniques et tout. Mais on a. Moi, je ne veux pas me.
À bon entendeur, salut !
On va se battre pour continuer, pour Cultivons-nous serve à éduquer. En fait, il faut créer des vocations.
4,99€ par mois, on va dire 5€ par mois, cultivons-nous.tv. Merci beaucoup, Edouard Bergeon, d'avoir été avec nous. C'est disponible sur Internet et sur BrutX et sur la box Orange, je le rappelle. Entretien avec Edouard Bergeon, réalisé le 7 mai dernier. Dans un instant, on va saluer les deux nouveaux fers de lance du service public. Le cuisinier Maurice Sacco, 28 ans, classé par le guide Michelin comme l'un des 5 chefs les plus prometteurs du monde, qui présente désormais Cuisine Ouverte sur France 3. Et Raphaël Yem, visage emblématique de la chaîne Culture Box et le canal 19 de la TNT, chaîne créée pendant la pandémie et qui est toujours là. Ce sera juste après ça.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Raphaël Yem.
Bonjour Philippe Vondel.
Bonjour Maurice Sacco.
Bonjour.
Vous êtes les nouveaux fers de lance du service public, vous connaissiez ou pas ?
On se parle sur les réseaux sociaux, et puis lui c'est un artiste, c'est une star de la cuisine. Ouais. Évidemment, je sais ce qu'il fait, j'ai même eu la chance de goûter, et c'était incroyable.
Attendez, mais vous n'étiez jamais parlé, parce que vous êtes arrivé dans le studio, vous avez presque failli vous embrasser, comme il y a le confinement, on n'a pas le droit, mais vous avez fait toc-toc et des...
Et c'est ça les nouveaux talents de France Télé,
voilà. Tu vois. Mais vous avez goûté sa cuisine sans jamais l'avoir vue.
Sans jamais avoir eu la chance de le voir, sauf à la télé.
Oui, évidemment. On peut le voir dans Cuisine Ouverte tous les samedis à 20h25 sur France 3. On vous avait découvert dans Top Chef. Et comme toujours, c'est celui qui n'a pas gagné qu'on remarque le plus. Vous avez ouvert votre restaurant à Paris, il s'appelle Mosuke. Vous, Raphaël Yem, on peut vous voir dans l'émission sur Culture Box et le canal 19 de la TNT désormais. C'est en quotidienne à 20h10, 20h15. Vous co-présentez avec Daphné Burki. Maurice Sacco. Oui, je voulais le dire quand même. Première étoile, vous obtenez et désigné par le guide Michelin comme l'un des 5 chefs les plus prometteurs du monde. Est-ce qu'il y a de la gastronomie, Raphaël Yem, dans l'émission ? Est-ce que c'est de la culture, la gastronomie ?
Évidemment, c'est de la culture aussi, on le voit. Je le disais, quand vous le présentiez, c'est un artiste parce que il envoie des étoiles dans les yeux des gens et puis dans...
Mais est-ce que vous en recevez des chefs ?
Pas encore.
Ah ben voilà, c'était ça
ma
question.
Pas encore, mais peut-être que ça va venir. Mais vous savez, il y a déjà tellement d'artistes qui viennent chez nous, qui sont privés de scène, parce que c'est ça aussi l'idée de Culture Box, c'est de pouvoir recréer le lien, en tout cas le ressouder, le renforcer au moment où il est le plus ténu, où il est le plus fragile.
Je suis d'accord avec vous, je souris parce qu'il y a aussi des restaurateurs privés de resto. Alors justement, Maurice Sacco, Cuisine Ouverte, c'est apprendre sous plusieurs significations. Racontez le principe de l'émission.
Alors le principe, il est assez simple à la base. Donc c'est une émission où on est vraiment sur de l'échange, du partage. Donc on part d'un produit, d'une recette. Et ensuite, je tire les fils en ayant voir les producteurs, les éleveurs, les agriculteurs. Ensuite, un chef qui est originaire de la région. Et pour finir, je fais une recette avec un invité en m'inspirant vraiment de ce produit et cette recette.
Par exemple, la dernière émission, elle était tournée à Lyon. Vous étiez avec quel grand chef à Lyon ?
À Lyon, j'étais voir Mathieu Vianney.
Exactement. Vous faites l'andouillette. D'abord, vous expliquez à votre invité. Vous l'avez dit, il y a une invitée, c'est Natacha Saint-Pierre. Mmh. Comment est faite l'andouillette? Vous savez, Raphaël Yem, comment est faite l'andouillette?
Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très bon.
Il va vous le dire.
Yes. Maurice, dis-le-moi, s'il te plaît.
C'est pas la partie la plus sexy, mais
c'est pour ça que je l'ai choisi.
C'est un boyau de bœuf qu'on farcit avec de la fraise de veau. Donc, c'est la panse.
Non, je n'entends rien. Voilà.
Mais il faut fermer les yeux, il ne faut pas le savoir. Ça.
Sauf que vous n'allez pas, vous-même, quand c'est le moment pour vous de faire la recette, vous n'allez pas la faire, cette recette, de manière traditionnelle à la lyonnaise, mais à votre manière, façon rougail-saucisse. Vous connaissez le rougail, le plat emblématique de La Réunion. Et là, attention, les puristes de la cuisine lyonnaise, vous pouvez hurler. Voici la recette d'andouillette de Maurice Acco.
L'andouillette, on va vraiment juste venir la snacker, la voir le plus simple possible.
Ouais.
Ensuite, on va faire la rougail, mais vraiment, on va extraire cette sauce. Et on va la voir d'un côté comme une sauce et de l'autre côté, on va l'émulsionner légèrement. En fait, on va ajouter du lait, on va l'émulsionner et on va couvrir tout notre dressage.
D'accord.
Et habituellement, le rougail saucisse, d'accord, on le mange avec du riz.
Ouais.
Donc, on va avoir une base de riz qu'on va surcuire et qu'on va assaisonner avec du gochujang, qui est une pâte de piment coréenne.
Du gochujang, c'est bon, hein?
Bah oui,
moi je connais pas coréenne. Du tout. J'ai appris
on est vraiment dans la cuisine du monde. Hein.
Exactement.
Mais je crois que c'est toutes ses inspirations, lui. Hein. Mm.
Vous testez avant ou vous improvisez le jour du tournage?
Alors, il y a un peu des deux. Il y a des, on va dire, sur les goûts.
Non, parce que là,
sur
c'est risqué quand même.
Ouais. Ouais, c'est risqué, mais j'aime bien prendre un peu de risque sur ces recettes-là parce que c'est ce qui fait qu'on s'amuse un peu. Quand même.
Oui, mais il y a le risque aussi que la personne qui goûte dise. Oh.
C'est non, bizarre, c'est risque, ça va, elle est quand même limitée parce qu'il y a des goûts, quand même, il y a des raccourcis de goût que je connais.
Plus souvent, miam
ouais. C'est
oui,
ça,
on est d'accord.
Et blague à part, et si c'est raté, ou plutôt si c'est en deçà de vos attentes, vous faites quoi?
C'est jamais raté. Parce que c'est la télé et que c'est beau, c'est toujours bon.
Ouais. Au passage, j'ai appris une chose grâce à vous, quand en cuisine, il ne faut jamais du lait demi-écrémé, il faut du lait complet. Du lait entier. Vous êtes cuisinier, Raphaël Yem, ou pas?
Ma femme est chef de cuisine.
C'est pas vrai?
Ah ouais, j'ai beaucoup de chance. Bon, mais comme c'est les cordonniers les plus mal chaussés, quelquefois on commande.
C'est pas vrai.
Ah bah ouais, vous pouvez pas demander à des gens qui toute la journée cuisinent, dont plus cuisiner à la maison.
Énormément, je comprends très très bien ça. Raphaël Yem, vous présentez depuis un mois donc cette nouvelle émission sur une nouvelle chaîne, c'est assez rare pour être signalé, ça s'appelle L'Émission, c'est sur Culture Box.
C'est sur le canal 19.
Exactement, avec Daphné Burki, que vous qualifiez elle-même de Beyoncé des animatrices.
Ah oh bah bien sûr.
L'idée de l'émission, c'est quoi? 5 invités qui viennent, qui racontent.
Qui viennent performer, qui jusque-là étaient privés de scène. Mmh. Bah ouais, vous connaissez la situation aussi bien que moi. Des artistes qui nous ont tant manqué, et puis qui viennent dans les canapés se raconter, faire des lectures, performer également, utiliser notre scène, briller sur notre scène.
Ouais.
Et on a des artistes vraiment de tout le territoire français. Des régions, des Outre-mer aussi, des gens qui quelquefois même font leur première télé, même s'ils ont déjà des kilomètres de scène derrière elles ou une grosse communauté sur les réseaux sociaux. Et qui sont super émus d'être ici parce qu'ils avaient l'impression d'être un petit peu oubliés. Mmh. Et là, on vient leur parler, on vient leur demander c'est quoi le processus de création. Et c'est vraiment cette émission est comme cette chaîne, un cri du cœur, une déclaration d'amour aux artistes.
Ouais, hier, il y avait Marie-Inès Gillot, notamment la danseuse, formidable. Puis grâce à vous, j'ai découvert Karl Valentin, auteur allemand, inventeur de l'humour absurde. Je ne savais pas comment ça a été créé. Très beau texte dit par un comédien, Sébastien Thierry. Vous êtes fait plaisir, enfin Daphné Burki s'est fait plaisir. Mmh. Elle a passé des images de lui complètement à poil.
Bah, je pense que ça fait plaisir à tout le monde.
Ça
hein.
fait vraiment plaisir à tout le monde, c'est très bien. Et encore, c'est que le début. Culture Média continue, vous allez voir, vous allez entendre. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Raphaël Yem et de Maurice Acco, ce sont peut-être les nouveaux visages de France Télévisions, ce qu'on verra à l'avenir et à l'avenir. En tout cas, la chaîne mise beaucoup sur vous, on va en parler. Raphaël Yem, vous êtes tous les soirs dans l'émission de Culture Box, c'est la chaîne 19, c'est le canal 19 de la TNT qui a été réattribué à cette chaîne culturelle pour faire vivre l'art confiné en ce moment, le mot est faible. Vous avez l'habitude en démarrage, avec Daphné Burki, de lire un extrait ou une citation d'un roman, ce qui renforce la complicité du duo. Par exemple, avant-hier, il était question d'Oscar Wilde.
Oh Daphné, j'ai quelque chose de parfait pour toi.
Allez.
Oscar Wilde écrit dans l'importance d'être constant. Il est beaucoup plus intelligent de dire des choses absurdes que d'en écouter.
Bah alors, ce serait parfait pour moi parce que tu sous-entends que je dis des choses absurdes.
Ben oui, ça t'arrive, mais comme tout le monde, quoi.
Oui, mais alors du coup, si j'en dis, c'est que tu les écoutes.
Ouais, tout à fait.
Ouais. Donc, si j'en crois Oscar Wilde, mieux vaut en dire que de les écouter.
Ah bah ouais, t'as raison.
Tu sais quoi, je l'aime bien Oscar Wilde. Tu as raison, il est brillant. J'adore.
J'aime de moins en moins, moi, Oscar Wilde.
Maurice Acco, vous pourriez résumer ce qui va d'être dit parce que moi, j'ai déjà les neurones confondus. Non, mais ça démarre bien et ça montre l'ambition du programme.
Bien sûr.
On s'amuse, on réfléchit. Hier, en plus des invités sur le plateau, vous aviez organisé un duplex en direct du théâtre de la Colline occupée.
Totalement.
Avec deux jeunes comédiennes qui s'étaient barricadées dans le théâtre.
Deux étudiantes en art, ouais.
Vous n'êtes pas rancunier parce que le ministère de la Culture a beaucoup œuvré pour la création de cette chaîne et Roselyne Bachelot était contre cette occupation. Ils y vont.
Mais on l'a dit, Culture Box, c'est une maison ouverte pour tous les artistes et tous les gens qui se soucient de l'art, du spectacle vivant. Donc c'était naturel de leur donner la parole. Mmh. Et on a pu écouter leurs revendications qui, j'imagine, sont légitimes.
Voilà. Et j'aime bien ce paradoxe, c'était une maison ouverte pour des gens qui s'étaient enfermés. Et au passage, peut-être une bonne nouvelle, enfin on ne sait pas ce qui va en advenir, mais Roselyne Bachelot, c'était une info que j'ai entendue au Flash tout à l'heure, ministre de la Culture, rencontre Jean Castex, Premier ministre, à 11h. Normalement, il paraît qu'il y aura des annonces positives. Maurice Sacco, on parlait de pandémie, justement, c'est la raison d'être de Culture Box. Comment vous la vivez, la pandémie, en tant que restaurateur? Est-ce que vous avez un resto?
En tant que restaurateur, c'est frustrant. Voilà. Pour moi, c'est vraiment frustrant.
Et avec votre banquier?
Avec mon banquier, ça va.
Non, parce qu'il y a un enjeu économique.
Ouais, bien sûr.
Je plaisante.
Moi, j'ai une chance, c'est qu'on travaille très bien. Mmh. Donc, financièrement, je suis clairement pas de ceux qui sont à plaindre. Donc,
attendez, c'est vous le resto clandestin?
Surtout pas.
Vous avez monté un click and collect.
On fait click and collect et à remporter. Donc, à emporter sur place. Et le soir, on fait uniquement en livraison. Donc, l'offre plaît beaucoup. On a des très bons retours. Et donc, c'est pour ça qu'on m'entend jamais me plaindre dans les médias, parce que tout va bien pour nous en ce moment. Donc, ça fait plaisir.
Maurice Sacco, vous avez dit à Aujourd'hui en France, c'était le 27 février, je trouve courageux que France 3 donne à un mec qui a ma tête une émission qui représente les terroirs. On est à la radio. On ne voit pas forcément votre tête. Elle est comment, votre tête?
Ma tête? Sympathique.
Ouais.
Il y a forcément. Quand on pense terroir, on pense pas forcément à avoir un jeune homme noir. Mmh. Et c'est courageux de leur part. C'est pas le seul juge, on va dire, de valeur que de se dire on va juste prendre un noir et on va le mettre à la tête d'une émission. Mais par contre, se dire qu'on va prendre un chef qui a des choses à dire, qui a une cuisine à montrer, qui est différente de celle qu'on imagine. C'est courageux de leur part de se dire que c'est ce chef qui va représenter un peu l'image de la cuisine et qui va aller visiter le terroir.
On l'a vu avec cette rentrée de janvier, France Télévisions n'a pas fait mystère de mettre en avant la diversité sur sa grille de rentrée. Vous, Raphaël Yem, elle est comment votre tête?
Alors moi, je suis d'apparence asiatique, mais je suis parce que mes parents sont cambodgiens eux-mêmes. Et puis, vous avez vu, je suis bien en chair, donc je suis gros. J'ai un chapeau aussi, une casquette. J'ai peut-être une silhouette, un physique qui détonne dans le PAF. Mais Maurice, tu disais c'est courageux. Moi, je trouve que c'est légitime, surtout. Parce que aujourd'hui, le service public veut représenter dans toute sa diversité son public, les gens qui la regardent tous les jours, et peut-être aussi renouer un lien de confiance. Et c'est tout à l'honneur de l'état-major de France Télévisions, Delphine Arnault, Stéphane Cidbon-Gomez, Michel Field aussi, et ce qu'on fait avec la chaîne Culture Box, ou ce que je peux faire aussi, parce que vous ne l'avez pas dit, Philippe, mais tous les jours, j'anime une quotidienne sur France 3 Paris.
J'allais en parler.
Qui s'appelle Ensemble, c'est mieux, où là aussi, on veut refléter tous les publics et tous les habitants, les habitantes de l'Île-de-France.
Ouais. Vous dites c'est légitime et c'est courageux, donc on en est à ce point-là où le courage doit être légitime et la loi doit être courageuse. non, mais c'est vrai, c'est assez intéressant. Maurice Sacco, on vous a vu dans l'émission Top Chef, bel accélérateur de carrière, mais ensuite... Auparavant, vous avez travaillé avec Thierry Marx dans des très très grands restaurants, vous aimez mélanger les genres, et votre première étoile, vous l'avez vécue comment?
Beaucoup de joie et beaucoup de fierté, parce que c'est un peu le bout du chemin pour un cuisinier en construction, et c'est la validation que tout ce qu'on faisait au restaurant avec l'équipe était correct et qu'on était sur la bonne voie. Donc pour moi, une grande fierté.
Vous savez qu'ici c'est la France et quand on réussit, ça plaît pas à tout le monde. Le critique gastronomique de France Inter, qui est également aux commandes de la deuxième partie de Top Chef, François-Régis Gaudry, a critiqué les gens du Michelin. Il leur a reproché de vous avoir donné votre étoile trop tôt, je le cite. « J'ai testé en même temps que le guide Michelin son restaurant », dit François-Régis Gaudry de vous-même. « En aucun cas, je n'aurais donné une étoile à Maurice Sacco. J'ai mangé un des pires plats de la rentrée. » Il ajoute qu'il a également mangé des choses très intéressantes. Oublions la polémique, on a tous le droit de ne pas aimer quelque chose. Est-ce que vous pensez que cette récompense est arrivée trop tôt?
Du tout. Je pense que le Michelin, comme je l'ai dit, est un cabinet d'audit. Mmh. Donc ils ont des critères, des notes et une grille de notation qui est la même pour tout le monde. Et que selon leurs critères, leur grille de notation, j'en étais digne, donc je vais pas en avoir honte.
Et est-ce que depuis, vous avez parlé à François-Régis Gaudry?
Ouais, on s'est parlé, c'est un tout petit milieu, donc...
Ouais. Et qu'est-ce que vous avez dit?
Ah, ça c'est... Le linge sale, c'est l'avant-famille.
Donc le linge était
sale. Dans la gastronomie, on
Alors, c'était calme ou ça a chauffé?
Non, très calme. Je suis calme de nature, donc il n'y a aucun souci.
Ils vont partager une andouillette Guayfi, je pense. Ça va se régler comme ça.
Non, mais il n'y a vraiment aucun problème. C'est justement, tout le monde a le droit d'avoir un avis. Et ce n'est pas à 28 ans, en tant que jeune cuisinier, que je vais me mettre à me vexer dès qu'on va me faire un mauvais retour.
On est d'accord. Raphaël Yem, j'ai oublié de citer Renversant. C'est le samedi et le dimanche à 17h25 sur France 3, Val-de-Loire avec Élise Chassin.
Non, ça c'est sur Culture Box.
Ah, sur Culture Box,
ouais, bien sûr. Et c'est aussi une fois par mois sur France 3 Centre Val-de-Loire.
D'accord. Merci beaucoup. Maurice Sacco et Raphaël Yem, c'était le 11 mars dernier. Culture Média continue avec sa configuration particulière. Dans un instant, le flash de 10h en direct et la rediffusion de l'entretien avec Anne de Pétrini.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor. Vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires?
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.